Benoît Basirico est cinésique sur Aligre FM pour presque une heure consacrée à la musique de film. Au sommaire de cette émission, notre sélection musicale des films actuellement à l'affiche avec La La Land, Corniche Kennedy ou encore Jackie. C'est justement pour un autre film en salle depuis mercredi dernier que nous recevons notre première invitée. Le film est un dessin animé, Sahara, et son compositeur est Jérôme Rebottier. Jérôme, bonjour.
Bonjour Benoît.
Dans cette émission, il y a aussi la musique des avant-premières avec Silence de Scorsese ou encore Loving avec David Wingo. Et notre second invité a écrit la musique d'un film qui sort ce mercredi 8 février. Il s'agit d'un film fantastique à la frontière de l'horreur, dans la forêt. Son compositeur est Philippe Scholler. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Et cette émission sera aussi sous le signe du collectif. Et Philippe est venu accompagné de Marc Hazard. Marc, bonjour et on parlera...
Bonjour Benoît.
On parlera donc de cette manière de faire de la musique aussi en collectif. Et puis la musique de film est aussi présente en festival, et à l'occasion du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, nous recevons la musicienne Irina Prieto-Botella. Irina, bonjour.
Bonjour Benoît.
Et enfin, nous retrouvons la rubrique de Manuel Bleton qui nous fait découvrir, comme chaque mois, des raretés glanées en vinyle. Salut.
Bonjour.
Manuel.
Salut.
Sans plus tarder, pour commencer, nous nous intéressons à l'actualité des BO des deux côtés de l'Atlantique, avec pour les États-Unis La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle, qui sera, j'imagine, beaucoup oscarisée, notamment pour sa musique, musique de Justine Hurwitz, et pour la France, Corniche Kennedy par Béatrice Thirier. La La Land, comédie musicale, donc, Justine Hurwitz retrouve Damien Chazelle après Whiplash, où il s'agissait d'un batteur. Ici, c'est une histoire d'amour sur fond de comédie musicale entre Minelli et Jacques Demy. Le compositeur donc a déjà raflé un Golden Globes et j'imagine qu'il le raflera son Oscar. Après La La Land, nous venons d'entendre la musique de Béatrice Thirier pour Corniche Kennedy, le film de Dominique Cabrera en salle depuis le 18 janvier avec Lola Créton et Aïssa Maïga, ce film qui se situe sur la corniche marseillaise. Et Béatrice Thirier fait le pont avec cette partition entre la musique urbaine et symphonique, oscillant entre le jazz, l'orchestre et les sonorités électroniques et même le hip-hop avec notamment trois chansons en collaboration avec un rappeur. Béatrice Thirier donc abolit les frontières musicales. Sahara, sorti le 1er février dernier, premier film de Pierre Corré, avec les voix de Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide ou encore Vincent Lacoste, une histoire d'amour de deux serpents dans le désert saharien. Nous entendons cette danse des serpents. Jérôme Rebottier, rebonjour.
Rebonjour.
Alors donc la musique comme ça s'intéresse à la géographie du film, à ce désert et à ses animaux, ses habitants. Il y a eu de la part de Pierre Corré des indications précises. Comment cette collaboration s'est produite ?
Alors justement, vous dites la musique s'intéresse au désert. C'est une des seules musiques qui est référencée en fait. Puisque on a justement l'idée de Pierre était de ne pas focaliser sur le fait que le film soit dans le Sahara, puisque c'est plus symbolique qu'autre chose, le désert. Et on a travaillé sur divers genres de musique. On a fait chanter des enfants en tahitien, on a fait des musiques avec le rappeur Sly Johnson, on a fait des musiques plus pop et du score d'orchestre, de poursuite. Donc Pierre avait vraiment envie d'avoir une musique très éclectique et de mélanger chansons et scores en fait.
Alors Jérôme Rebottier, on vous a entendu dans des comédies telles que Laissons Lucifer pour Emmanuel Mouret ou encore Les âmes câlines de Thomas Bardinet et plus récemment Le Prénom, cette comédie que tout le monde a pu voir. Là, c'est votre premier film d'animation. Est-ce que pour un compositeur, qu'est-ce qu'implique un film d'animation ? Est-ce qu'on est là très longtemps sur le processus ?
Ah oui, ça a duré très longtemps, surtout que c'était le premier film de Pierre, donc il a tenu à ce qu'on travaille dès le début. Parce qu'il, comme il ne connaissait pas le travail musical sur un film, il avait besoin qu'on fasse des ébauches et assez vite de savoir où est-ce qu'on allait. Donc on a travaillé un an et demi en fait, en trois fois. On a travaillé sur l'animatique, j'ai proposé des choses, des idées, on s'est mis d'accord. Et quand le film a été en production, on a retravaillé les maquettes pour qu'elles aillent vraiment là où elles devaient aller. Et à la fin, quand le film a été terminé, j'ai ajusté à l'image, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à l'image en animation. Et voilà.
Et comme compositeur de musique de film, qu'est-ce qui vous inspire le plus ? C'est justement vous avez besoin de voir l'image ou alors c'est une discussion avec un réalisateur ?
J'ai besoin d'univers. L'image est c'est en voyant de l'image que je me suis aperçu que j'avais envie de faire de la musique de film, parce que je me suis aperçu qu'en voyant des images, j'avais envie d'écrire des choses complètement différentes selon les images que je voyais. Et comme j'ai eu la chance d'étudier et la musique classique et de faire beaucoup de rock, c'est vrai que mes univers sont un peu différents selon les films. Après, les discussions me donnent aussi, du moment que je rentre dans l'imaginaire du réalisateur, un scénario. Souvent, j'aime beaucoup lire les scénarios et écrire une dizaine de pièces sur scénario. On en parle. Voilà, tout ce qui peut motiver ma créativité fonctionne en fait.
Alors la musique de Sahara est très variée, elle varie les styles, elle varie les univers. Et en même temps, il y a un fil rouge. Quel serait pour vous le lien justement de cette musique ?
Alors ça, je serais bien incapable de vous le dire moi-même, parce que c'est vrai que le lien, c'est le film. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, j'ai eu l'impression de faire des choses très différentes et tout le monde me dit, en voyant le film, il y a une vraie unité dans la musique. Ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas musicalement parlant. Je le maîtrise plus au niveau du film, en fait. Je sais qu'il y a un équilibre de la musique dans le film. Ça, j'en suis conscient.
Et la musique est cinématographique, je trouve, dans le sens où on y voit du visuel, des motifs.
Certainement.
Un peu comme Vertigo, où on voit la spirale. Et là, dans le Sahara, on voit justement toutes ces, ce sillage, comme ce morceau, le labyrinthe. Les deux musiques que vous venez d'entendre sont issues du même film, Sahara, et composées par le même compositeur, Jérôme Robotier, qui passe donc d'une forme classique orchestrale à une forme plus pop et de chanson. Cette chanson en collaboration d'ailleurs avec une formation Robots and Friends. En fait, Robots, c'est vous, et oui. Friends, des amis.
Oui, oui, quand j'écris des chansons pour les films, comme le score me prend pas mal de temps, même beaucoup, j'écris des chansons et je fais participer des amis pour les textes, pour la production des chansons. Et c'est devenu un peu depuis 3-4 films, c'est récurrent, on s'amuse. Ça me permet de travailler avec plein de gens et de signer sous ce nom qui voilà.
Et très souvent, alors là il s'agit dans un film, un personnage mais la radio, alors très souvent les réalisateurs ont tendance aujourd'hui à mettre beaucoup de musique préexistante, des tubes du moment. Là c'est vraiment une volonté de faire une musique originale pour ça.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, cette chanson. En fait, j'ai écrit cette chanson par rapport à un univers du film. Et puis, on s'est dit comment est-ce qu'on peut la caser, parce que c'est vrai que c'était pas évident de penser que des serpents dans une caravane, dans un panier, écoutent de la radio. Donc, hop, le réalisateur s'est dit on va se dire que les bédouins écoutent la radio et on va travailler comme ça.
J'ai lu les propos du réalisateur qui dit, par rapport à des faits références, qui vous a parlé de Bernard Herrmann, des percussions à la Jason Bourne ou encore de musique polynésienne. Il vous faisait écouter beaucoup de musique pour indiquer.
On n'en a pas écouté beaucoup, on a discuté et je lui ai proposé des choses parce que j'aime mieux que ça parte de mon univers que vraiment d'écouter des références. Je lui ai proposé des choses et on a pris ce qui lui plaisait dans ce que je lui ai proposé en fait.
Est-ce que vous travaillez avec les voix, en fait? Est-ce que les voix se font complètement de manière indépendante de votre musique, ou les acteurs qui doublent entendent aussi la musique? Enfin, comment...
Alors là, les acteurs qui doublent, surtout que là, c'est un film qui a été quand même travaillé, produit en anglais. Donc les acteurs sont arrivés très tard pour le doubler, donc ils ont entendu le film déjà prémixé, en fait. Donc ils avaient tout, hein, quand ils ont fait les voix.
Ouais, donc ça peut conditionner aussi leur timbre.
Bien sûr.
C'est un film aussi qui peut s'écouter finalement quelque part.
Oui, oui, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de musique. Le film fait 1h20 et je crois qu'il y a 55 minutes de musique. Donc
C'est voilà. Le propre d'un film d'animation. J'ai l'impression vraiment que la musique prend en charge beaucoup de choses.
Oui, oui, souvent, bien sûr, parce qu'il y a moins de... Alors surtout que là, en plus, on est dans le désert. Alors c'est vrai que la bande-son du désert est assez limitée, on va dire, qu'il y a du vent. Non, la musique est importante dans les films d'animation. Je pense que le rapport musique-image chaque film est particulier, j'aurais tendance à dire, surtout.
Et quand vous faites des comédies, on dit souvent qu'il ne faut pas faire de la musique qui fait rire.
Moi, j'ai horreur de ça, de faire de la musique qui fait rire. On m'a beaucoup reproché, ça fait quand même 20 ans que je fais des musiques de comédie, mais pas que. Mais dans les comédies, on m'a beaucoup reproché au début de faire de la musique toujours un peu mélancolique. Mais je pense que dans la comédie, ce qui fait rire, c'est la comédie des comédiens. Et la musique est là plus pour travailler sur les sentiments que sur le rire, en fait.
Alors, Sahara est un film d'animation, mais c'est aussi une comédie, quelque part. On rigole beaucoup.
Oui, bien sûr.
Et pour Papa ou Maman, il y a eu 1 et 2. Votre musique, quelle a été l'orientation prise?
Alors, c'est plus jazz, on va dire, dans l'esprit. Le 1 a été vraiment jazz avec clarinette, contrebasse, batterie, en gros. Et le 2, par contre, est un peu plus pop, puisqu'on a abandonné tous les instruments classiques. On a laissé basse batterie et on a mis des synthétiseurs et de la guitare.
D'accord. Et bah, pour découvrir l'éclectisme de votre travail, écoutons Papa ou Maman, suivi d'un illustre inconnu de la comédie au drame. Magnifique partition d'un illustre inconnu à l'instant, musique donc de Jérôme Robotier, où on entend ces pizzes de violon, ce piano. On entend un thème aussi, le thème, le travail mélodique, ça vous intéresse ?
Beaucoup, oui, oui. Je viens de là, en fait. J'ai vraiment, au départ, écrit beaucoup, beaucoup de musique de films mélodiques, comme justement pour Emmanuel Morel et son Lucifer, où c'était vraiment un thème très mélodique qui revenait 29 fois dans le film, je crois. Et puis, mais plus ça va, plus j'aime travailler aussi autour des textures et des choses plus modales. Voilà.
Merci Jérôme.
Merci beaucoup Benoît.
La musique contemporaine au cinéma, on va l'évoquer avec Philippe Scholler qui vient de là, et vient de là également Mika Levy qui signe la musique de Jackie, sortie mercredi dernier. La chanteuse et compositrice anglaise Mika Levy s'est fait connaître avec Under the Skin en 2013, et là elle trace le parcours de Jackie Kennedy après l'assassinat de JFK à Dallas, premier film américain du cinéaste chilien Pablo Larraín, et cette musique est obsédante. Cette musique de Mika Levy qui accompagne Jackie de Pablo Larraín confère au film quelque chose d'assez inquiétant finalement. La musique, ce film sans la musique serait peut-être un peu ennuyeux, et cette musique comme ça apporte un suspense et quelque chose de très inquiet. Autre film très inquiet, Dans la forêt de donc ce film où la musique est signée Philippe Scholler, sorti mercredi prochain, on se projette, là on a évoqué tout à l'heure Sahara, sorti mercredi dernier, maintenant on se projette à mercredi prochain. Ce thriller avec Jérémy El-Kaïm, Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père pour les vacances d'été. Ils se retrouvent isolés en pleine forêt. On frissonne rien qu'à l'écoute de cette partition de Philippe Scholler pour Dans la forêt. C'est un film donc de Gilles Marchand. Philippe Scholler, on vous connaît surtout pour votre participation au film de votre frère Pierre Scholler, notamment Versailles ou L'exercice de l'État. Comment s'est faite cette rencontre? C'est votre première collaboration ensemble avec Gilles Marchand?
Il m'a appelé avec Dominique Moll, co-scénariste. Il m'a appelé pour... il voulait faire la musique avec moi.
Alors j'ai lu que vous avez découvert le film pendant le montage, vous êtes arrivé un peu sur la fin.
C'est très, très français, oui, on appelle le compositeur quand il n'y a plus de sous et quand c'est la fin et qu'on panique.
Le film appartient à un genre très précis, le film fantastique, d'horreur?
Non.
Non?
Précisément, c'est ça qui m'a intéressé. La première vision que j'ai eue du film dans un premier pré-montage, c'était un film plutôt naturaliste, fable écologique, un peu bergmanienne. Et en fait, c'est un film qui a une très grande ambiguïté de la définition stylistique. C'est à la fois un film d'horreur, une comédie dramatique, un conte symbolique, une fable écologique, un thriller, un film d'horreur terrible. C'est un film un peu, vous savez, comme les moirures d'essence sur l'eau. Oui, je délire. Mais non, mais parce que je prends une métaphore visuelle, parce qu'on pourrait faire avec la Sinfonia de Berlioz, qui est postmoderne. De ce point de vue-là, il y a un côté assez postmoderne, au meilleur sens du terme, ce qui croise les mémoires stylistiques que l'on a sur un siècle de cinéma. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, par rapport à la problématique du compositeur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a énormément de matériaux différents, comme on vient de l'entendre. Il y a du glass harmonica, il y a de la musique électronique, il y a des cordes, il y a des... Donc c'est cette ambiguïté, mais cette richesse stylistique très difficile à maîtriser d'ailleurs, qui fait que le film a pu se construire.
Et cette maison isolée dans la forêt avec un père assez autoritaire, tout de suite j'ai pensé à Shining.
Une chose très importante, c'est que la musique n'a pu se faire dans un processus créatif que grâce à Marc Hazard, qui est à mes côtés, que j'ai rencontré à l'occasion de ce film, et qui précisément par ses croisements stylistiques a une telle maîtrise, non pas des maquettes mais de la présentation dans le travail d'élaboration du film au réalisateur de choses qui sont presque réelles, qui sont des maquettes, mais en fait qui deviennent réelles. Donc a pu... voilà, c'est Marc Hazard.
Marc Hazard, donc enchanté.
Bonjour.
Voilà, donc c'est un travail collectif aussi. Oui. Donc finalement, vous êtes en collaboration avec le réalisateur et c'est vous, Philippe Scholler, qui avez introduit Marc Hazard sur le projet. Comment ça s'est passé?
Ben, en fait, j'ai été contacté par l'éditeur de Philippe, qui est un éditeur de musique contemporaine. Et il s'agissait de faire un petit peu le lien entre la musique de Philippe et le réalisateur, en sachant que Philippe a une culture vraiment de la musique écrite. Il écrit des conducteurs d'orchestre de façon très précise et très savante. Et il fallait réaliser en fait un lien entre cette pensée, cette construction musicale et l'univers du film. Donc le premier travail, il y a eu plusieurs étapes dans le travail, mais le premier travail, ça a été déjà de prendre connaissance de ces conducteurs, de faire des premières maquettes, avant ensuite de poursuivre le travail un petit peu plus loin dans l'orchestration.
Dans la forêt, musique de Philippe Scholler pour ce film de Gilles Marchand à l'affiche ce mercredi. Quelle est la part, on entend vraiment les textures, on entend cette musique, quelle est la part d'électronique? Comment vous travaillez entre l'acoustique et l'électronique?
Il n'y a pas de différence entre un Macintosh et un violon. C'est juste une question, c'est du métal, c'est du silicium, si ce n'est qu'il n'y a pas de musique contemporaine. Il y a une invention qui traverse les âges avec différentes sensibilités. Après, c'est, on en parlait avec Jérôme tout à l'heure, il y a la question de l'énergie. C'est-à-dire, soit la musique vient d'un corps vivant biologique animé par une énergie électrique et se développe sur un corps sonore qui rayonne en trois dimensions, soit on fait appel à ce qu'on appelle les restes de l'industrie, parce qu'il n'y a pas de Stradivarius du haut-parleur, à, c'est ça la fracture de notre génération. On connaît Led Zeppelin, Bartok, Ligeti, etc. Mais la question de l'instrument, c'est juste, c'est une question idéologique. Donc la musique contemporaine, de ce point de vue-là, c'est aussi idéologique. Voilà, je finis mon grand laïus pour dire que la musique est une, la sensibilité s'est ouverte grâce aux nouveaux instruments, donc dérivés des haut-parleurs, que ce soit la guitare de Jimi Hendrix ou les synthétiseurs de James Blake, mais la musique, dans sa perception, dans sa composition sur l'image, peut faire appel justement à l'extension des instruments classiques pour ouvrir un monde sonore qui est proche d'une bande son globale, qui intègre des bruits de texture de feuilles, voilà, ce qu'on appelle le bruit avant que la musique classique s'effondre dans la musique contemporaine. Mais en fait, c'est pas un effondrement, c'est une extension. C'est pour ça que la musique à l'image permet de mieux entendre cette ouverture de la sensibilité qui est né au début du XXe siècle avec le gamelan de Balinet, écouté par... c'est l'extension des frontières, mais qui sont réelles dans nos cultures, le blues dans notre jazz, etc. Mais c'est aussi l'extension de la sensibilité. Et c'est pour ça que c'est le début de l'art musical. Parce que le monde sonore est extrêmement large, les langages sont extrêmement divers.
Et quand vous dites qu'il n'y a pas de différence entre un Macintosh et un violon, je pense que vous ne le prenez pas dans ce sens-là, mais on pourrait le comprendre aujourd'hui dans cette manière que beaucoup utilisent des faux sons, utilisent des violons synthétiques.
Voilà, on peut aller dans un musée virtuel, comme on ne peut plus visiter Lascaux parce que c'est trop fragile, mais cet univers qui a cristallisé des instruments qu'on appelle classiques, qui sont une énergie tridimensionnelle d'une complexité inimaginable par rapport à la synthèse. Moi, j'ai fait de la synthèse numérique à l'IRCAM pendant 20 ans. Donc, voilà, si on veut créer des sons, il faut qu'ils soient à la mesure de la splendeur du principe d'incertitude qu'il y a à l'intérieur d'un élément vivant qu'on appelle un son classique. Un piano, c'est une chose des plus stables, mais un clavecin, un violon, sans parler de la voix, sont des choses d'une... C'est même en les amplifiant, on s'aperçoit de la complexité de ça. Donc c'est une référence un peu biologique à un univers dont l'incertitude n'est pas calculable, alors que les synthétiseurs fabriqués par des ingénieurs qui ne sont pas musiciens, qui n'ont pas cette culture-là, qui ne sont pas allés au musée, hein, la question est claire. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans un film polystylistique d'amener plusieurs langages, surtout quand Marc... Suis-je clair? Surtout quand Marc apporte justement une maîtrise extrême des logiciels pour simuler des instruments réels. Mais un instrument de musique, c'est quelque chose, c'est finalement qu'un code de perception. Si je fais... voilà. Dès qu'il y a une articulation temporelle, il naît un langage musical.
Et le son et la musique est très lié, en fait, même dans ce travail, voilà. dans la forêt. Le fait d'être intervenu tard, en plus, vous aviez de la bande-son.
Voilà.
Dans quelle manière la bande-son a joué pour votre travail musical ?
Nous avons pas mal échangé avec Loïc Priant, qui est le monteur son. Donc, dans le processus de travail, en fait, Philippe composait pour cordes, pour orchestre, etc. Donc, effectivement, il y a eu un premier échange avec le réalisateur Gilles Marchand sur des maquettes. Ensuite, nous avons enregistré, au studio Sequenza, est venu se greffer effectivement toute une approche sonore avec Loïc Priant et une approche, on va dire, je dirais plutôt d'extrapolation de certains instruments, de détournement d'instruments anciens. Tout à l'heure, on écoutait le glace harmonica, qui est un instrument qui date de Mozart, je crois. Tu me corrigeras, mais Mozart l'a utilisé. Oui, mais c'est vrai que Philippe en fait un usage moderne, voilà, et tout cela est venu se greffer en cohésion avec l'aspect sound design de Loïc.
Après, dans la forêt, nous venons d'entendre quelques notes de Philippe Scholler pour l'exercice de l'État. Je dirais une musique qui est un vrai personnage, puisque c'est une musique qu'on peut dire improbable pour ce sujet. On pourrait pas imaginer cette musique si on lit le pitch de film, voilà, sur le pouvoir, la politique. Et finalement, quand on voit le film, on se dit, voilà, la musique est le personnage, elle est cette politique, ce pouvoir, elle prend une belle place dans le film.
Mais c'est exactement ça, le terme. Vous venez de le dire, Benoît, c'est la notion de visage, de personnage. Pierre me disait souvent que quand je n'en peux plus, viens, c'est toi qui prends la main. La musique a un pouvoir tellement puissant, parce qu'elle ne signifie rien d'autre que son écoute. Il n'y a pas de sens à la musique, il y a le sens que l'on fait quand on se l'approprie, quand on l'écoute. Il y a une telle puissance émotionnelle qu'elle ouvre en effet à des visages inconnus. Et l'inconnu, on sait très bien que tout le monde soit a peur, soit est attiré. C'est la poésie du film dans le film, c'est Bruno Coulet qui dit ça, qui est la partition, qui est la musique, ce qu'on appelle la musique. Mais maintenant, ce qui est intéressant, pour revenir aux questions précédentes, c'est justement l'ouverture du musical au monde sonore.
Et j'ai l'impression qu'il y a différents types de compositeurs de musique de film. Il y a des compositeurs de musique de film caméléon qui font sur commande une valse, là du jazz.
Ah oui, c'est un vrai zoo.
J'ai l'impression que vous
il n'y a pas que des caméléons.
J'ai l'impression que vous faites votre propre musique quand vous faites de la musique de film. Vous ne débordez pas de votre style, de votre savoir-faire en musique contemporaine. Est-ce que je me trompe ?
Je n'en sais rien, je ne sais pas qui je suis.
D'accord. Très belle question et conclusion. Je ne sais pas qui je suis. On reste dans la musique contemporaine avec cette partition de Catherine Kluge et son mari Kim Allen Kluge pour Le Silence de Martin Scorsese, magnifique film qui sort également mercredi prochain avec cette musique donc contemporaine qui privilégie les ambiances sonores. Vous écoutez Aligre FM, l'émission Vive le cinéma qui accueille la musique de film une fois par mois. Nous avons parlé de Sahara avec Jérôme Robotier et puis du film Dans la forêt avec Philippe Scholler et Marc Hazard. Merci à vous. Et là maintenant on se dirige vers le court-métrage puisqu'en ce moment se déroule à Clermont-Ferrand le festival du court-métrage jusqu'au 11 février, le plus grand événement consacré au court-métrage avec une compétition nationale, internationale, un labo, une rétrospective, cette année la Colombie et une quarantaine de court-métrage donc colombien et un marché du film. Et le festival accorde également une place à la musique de film par le biais de ciné-concerts, notamment avec le groupe Tindersticks, et d'un programme court en musique, ou encore d'un prix dédié au palmarès, c'est rare, Cannes le fait toujours pas, et à Clermont-Ferrand on remet donc un prix pour la musique de film au sein de la compétition nationale. Et il y a aussi une conférence sur la résidence de création de musique de film à la Chaise-Dieu, et je reçois à cette occasion Irina Prieto Botella, c'est comme ça qu'on ça se prononce.
Plus ou moins.
Vous êtes espagnol d'origine.
C'est ça.
Donc vous avez été sélectionné au sein de cette résidence. De quoi s'agit-il?
Ben oui, on a eu la chance cette année avec Jeanne Tron-Loiseleu, qui est une réalisatrice, d'avoir cette résidence. C'est une résidence proposée donc par la Chaise-Dieu, dans laquelle on peut réaliser la musique d'un film. Donc enregistrer avec des musiciens professionnels, enregistrer dans des conditions optimales, et puis aussi on a pu faire aussi le mixage, et ce qui est super pour les courts métrages où souvent il n'y a pas beaucoup de budget. Bah ici on nous met tout ça en place.
Ça vous a permis de travailler avec un orchestre, 12 musiciens.
Tout à fait, c'était La Camerata, c'est un ensemble basé sur Lyon, un ensemble de cordes qui est très bien et qui avait fait un très très bon travail.
Vous avez fait cette résidence avec cette réalisatrice que vous connaissiez déjà, je crois, parce que vous avez déjà travaillé avec elle sur un autre film, Des Racines.
Exactement, on a travaillé sur Des Racines. Et d'ailleurs, c'est parce que ce film-là, il a été sélectionné à Clermont-Ferrand l'année dernière, qu'on a su aussi l'existence de cette résidence qui est en lien avec le festival. Et qu'on a pu postuler, qu'on avait pu l'avoir.
Vous avez travaillé sur de nombreux documentaires, courts-métrages, fictions, animations, notamment récemment la musique d'un documentaire sur Gaudi Code, un film de Daniel Proscar, coproduit par Arte et TVE, consacré donc à l'architecte Anthony Gaudi. Concernant les années donc pour lequel vous étiez à la résidence, présentez-nous cette musique, cette partition.
Jeanne, elle avait envie d'une musique faite par des cordes, qui va être en contraposition avec une autre musique purement vocale, donc des polyphonies corses. Elle va avoir la chance de pouvoir tourner l'ensemble à Filetta. En contraposition à ça, elle voulait une musique qui puisse exprimer toute la recherche du personnage principal, qui a du mal à trouver sa place dans le changement de rôle d'une femme de 30 ans qui va devenir mère. Et donc c'est grâce à une balade dans son village natal en Corse et grâce à des personnages de femmes qui sont à d'autres moments de leur vie qu'elle va enfin se sentir à l'aise dans cette qu'elle va assumer ce changement de rôle. Donc la musique était là pour exprimer cette malaise et puis enfin cette la rencontre finale de cette harmonie, enfin, qu'on est à sa place.
Nous venons d'entendre la musique d'Irina Prieto Botella pour Les Années, court-métrage donc qui fait donne lieu à cette résidence donc à la Chaise Dieu. Je tiens aussi à citer peut-être les autres dispositifs d'aide parce qu'il y a beaucoup de dispositifs de soutien à la musique de film, donc on vient de citer la Chaise Dieu. Il y a aussi Aubagne, notamment donc cet atelier de troisième personnage. Manuel Bleton, qu'on entendra tout à l'heure, a aussi participé à cette résidence d'Aubagne. Il y a Émergence, et il y a aussi les ateliers d'Angers, premier plan. Et puis et enfin, Trio. C'est la maison du film court qui organise cette résidence qui se déroule en septembre dans le Limousin et qui favorise, chacune de ces résidences favorise les rencontres entre réalisateurs et compositeurs. Peut-être un mot, Irina, sur toutes ces résidences. Je crois que vous en aviez fait quelques-unes.
Tout à fait. J'étais à Émergence en 2015 et j'ai pas eu. Enfin, à Aubagne, j'ai fait le troisième personnage, mais pas la masterclass. Non, bah, c'est des résidences qui nous aident vraiment à. Surtout dans des projets comme ça où il n'y a pas beaucoup de budget, nous aide vraiment à pouvoir faire des musiques originales dans des bonnes conditions et aussi à rencontrer des réalisateurs et des professionnels, enfin des gens qui sont dans cette profession. Donc elles sont vraiment indispensables pour soutenir notre activité.
Emmanuel Bleton, je profite de vous avoir aussi ici pour vous entendre aussi sur ces résidences.
C'est une mise en pratique et bien bien sympathique quoi. C'est ça se passe dans les conditions souvent en urgence. Alors c'est vrai que pour Émergence, les compositeurs sont souvent un petit peu frustrés parce que ça va très très vite. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion de faire. Ben, voilà. Mais sinon, c'est une bonne mise en pratique et ça permet surtout de voir comment on peut communiquer avec le réalisateur. Et voilà.
Il y a des appels à candidature régulière. Si vous écoutez et que vous êtes compositeur, n'hésitez pas. Par exemple, sur cinésique.fr, il y a une rubrique qui répertorie tous ces dispositifs et les appels à candidature. Émergence vient d'ailleurs d'annoncer les lauréats de cette année. Et Aubagne aura lieu en mars, fin mars, avec cette nouvelle édition du troisième personnage.
Et l'appel à candidature pour la Chaise Dieu vient d'être lancé.
Tout à fait, je l'ai reçu et je vais l'annoncer sur cinésique.fr dans la journée. Donc super. Vous pourrez aussi voir voilà cette nouvelle appel à candidature de la Chaise Dieu. Et on termine avec Clermont-Ferrand, avec un coup d'œil sur la sélection 2017, puisque comme je l'ai dit, il y a un prix pour la musique qui sera remis. Je vais citer trois films pour juste citer les trois compositeurs pour lesquels j'apprécie le travail, qui sont en compétition. Il y a Goo Bacon, qui est une comédie d'Emma Benestan, musique de Julie Rouet. Il y a Féfé Limbé, film de Julien Siloré, musique d'Amaury Chabotti, et enfin Mars 4, un film de science-fiction de Guillaume Rieux, musique de Mathieu Alvado, que l'on écoute. Dans le court-métrage, il peut y avoir aussi de l'orchestre. On vient de l'entendre, Mars 4, musique de Mathieu Alvado, qui figure au sein de la compétition nationale du festival de Clermont-Ferrand, qui se déroule actuellement donc à Clermont-Ferrand. Avant d'entendre des raretés en vinyle, deux avant-premières, Loving, qui sort le 15 février, film de Jeff Nichols, et qui retrouve son compositeur David Wingo, après Take Shelter, Mud ou Midnight Special. David Wingo était d'ailleurs récemment au festival Premier Plan d'Angers, en conférences et en rencontres diverses. Une partition sobre pour un mélo avec une histoire d'amour interraciale, Loving, et juste après L'Indompté, avec la musique de Nicolas Piovani. Thank you. Après Loving par David Wingo, à l'instant, autre film à l'affiche le 15 février prochain, premier film de Caroline de Ruas, avec cette musique du compositeur italien Nicola Piovani. Puis on entend très bien l'Italie avec cette voix de soprano de Donatella Pandimiglio, et puis cette mandoline très italienne donc pour L'Indompté, qui sort le 15 février. Et nous restons en Italie avec Manuel Bleton, qui défriche chaque mois des raretés en vinyle, ces musiques-là que l'on peut entendre que à cette antenne, puisqu'elles ne sont pas gravées en CD ou disponibles ailleurs. Les brocantes sont là pour ça, Manuel. Alors, de qui s'agit-il, puisque nous restons en Italie?
Ah bah alors, cette semaine, ce mois-ci plutôt, il s'agit d'inédit de Nino Rota, avec une chanson composée donc par Nino Rota, tirée du feuilleton TV Le Journal de Jean la Tempête. La chanson s'appelle « Viva la papa col pomodoro ». C'est-à-dire, la traduction, c'est un plat de pommes de terre à la sauce tomate. Diffusé en 64 sur la RAI, en 8 épisodes, cette chanson endiablée affirme que le peuple a faim de révolution. Voilà pourquoi la chanson fait référence à ce plat paysan qui est un monument de la cuisine toscane. Et cette chanson a été reprise dans les années 60 par Dalida, et elle était chantée par le premier rôle de cette série, Rita Pavone. Donc là, on va écouter la version instrumentale du film, interprétée à la guitare classique. Et ensuite, on enchaîne avec une autre composition de Nino Rota, très peu diffusée également, pour un court-métrage de Visconti, dont la musique donc est signée de Nino Rota en 62. Pour Boccace 70, donc film composé de 4 courts-métrages, dont un tourné par Fellini, De Sica, Monicelli et Visconti. Donc. Et Nino Rota a composé pour l'épisode qui s'appelle Il Lavoro, c'est-à-dire le travail. Il est interprété par Romy Schneider et évoque la solitude des individus et leur étouffement dans le carcan des conventions et l'asservissement de l'être au pouvoir de l'argent. Donc on est dans l'Italie des années 60, assez contestataire, et c'est un hommage au grand écrivain populaire italien Giovanni Boccace. Et nous écoutons donc cette musique parue en 1982 sur un vinyle d'inédit de Nino Rota, publié sur le label General Music.
Très bien. Eh bien, merci. Fin de l'émission. Merci à nos invités, Philippe, Marc, Jérôme, Irina, Emmanuel, donc, et on écoute Nino Rota.